France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les Européens affichent leur soutien à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui essaye de résister à la pression américaine pour faire des concessions à la Russie. À Londres, Zelensky a retrouvé Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Toute la Syrie n'était pas en fête aujourd'hui pour le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad. Sur la côte, en pays alaouite, la population reste traumatisée par les massacres du mois de mars. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux Marie-Pierre Véraud et Martin Troadec. Le dossier de ce journal est consacré à la Gen Z au Népal, ces dizaines de milliers de jeunes qui ont fait tomber le gouvernement népalais. Cécile Bideau est allée à leur rencontre à Katmandou. En France, l'Union des droites agite les Républicains. Nicolas Sarkozy ne veut plus du Front Républicain contre le RN et Bruno Retailleau appelle à faire l'union dans les urnes. Donald Trump n'en finit plus de critiquer Volodymyr Zelensky, même si le ton est désormais plus feutré après l'humiliation infligée au président ukrainien en février dernier à la Maison-Blanche. Hier soir à Washington, le président américain s'est déclaré, je cite, « un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition américaine pour mettre fin à la guerre. Cela convient à la Russie », a insisté Donald Trump. C'est donc un Volodymyr Zelensky à nouveau fragilisé par les États-Unis qui est arrivé à Londres aujourd'hui. Le président ukrainien a trouvé un peu de réconfort auprès de ses principaux alliés européens, le premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Londres, où l'on retrouve Gaëlle Joly.
Le ton est grave à la hauteur de l'ampleur du défi auquel ils sont confrontés. Car au-delà de la simple photo de soutien à l'Ukraine, les dirigeants européens ne l'ont pas caché. Ils font face à une situation délicate, de plus en plus préoccupante et qui doit être résolue rapidement. Le chancelier allemand Friedrich Merz a clairement exprimé son scepticisme à l'égard de certaines propositions américaines.
Nous restons fermement aux côtés de l'Ukraine et nous lui apportons notre soutien, car nous savons tous que son destin est lié à celui de l'Europe. C'est pourquoi nous sommes ici, afin de trouver des solutions. Personne ne doit douter de notre soutien à l'Ukraine. Nous lui sommes pleinement solidaires. Et je suis sceptique quant à certains détails que nous voyons dans les documents provenant des États-Unis, mais nous devons en discuter. C'est pourquoi nous sommes ici.
Pour le président Emmanuel Macron, le principal problème, c'est la convergence de positions avec les Américains.
Le principal enjeu est une convergence de nos positions communes, celle des Européens, de l'Ukraine et des États-Unis, afin de finaliser les négociations de paix et de nous engager ensuite dans les meilleures conditions possibles pour l'Ukraine, pour les Européens et pour notre sécurité collective.
L'Élysée évoque ce soir de prochains échanges avec les Américains pour renforcer cette convergence dans les prochains jours.
Gaëlle Joly, correspondante au Royaume-Uni. Après ce sommet à Londres, Volodymyr Zelensky est parti à Bruxelles où il doit rencontrer en ce moment les responsables de l'OTAN et de l'Union européenne. Un an, jour pour jour, après la chute du régime Assad, des dizaines de milliers de Syriens sont descendus dans la rue à Damas pour célébrer ce premier anniversaire. L'occasion pour le nouveau président Al-Sharré de lancer un appel à l'unité de toute la Syrie après 13 ans de guerre civile. Si la capitale syrienne était en fête aujourd'hui, l'atmosphère était totalement différente sur la côte chez les Alaouites. La consigne était de rester chez soi, car la communauté Alaouite, à laquelle appartient le clan Assad, a subi des massacres en mars dernier, au moins 1500 morts, dans des tueries attribuées à des factions islamistes, certaines étant proches de l'actuel pouvoir. Le reportage de Marie-Pierre Véraud et Martin Troadec sur la côte syrienne en pays Alaouite.
Elle a décidé de ne pas toucher aux vitres fracassées par les balles, de ne pas effacer les slogans et graffitis sur les murs de son salon. Isman a perdu son fils, Ali, lors des massacres du printemps dernier. Et cette pièce, elle la garde comme une mémoire, un document aussi du jour où Ali a été kidnappé, puis exécuté.
Ils sont entrés dans la maison en tirant, ils sont venus pour voler, ils sont venus pour tuer, pour commettre un génocide. Ils n'ont rien laissé. Et sur le plafond, ils ont écrit « Allahu Akbar ». Mon fils n'osait même pas sortir de ce quartier ces 7 dernières années à cause du service militaire. Ne croyez pas que Bachar al-Assad nous favorisait, non ?
Là, nous sommes de petites gens, insiste-t-elle, et n'avions rien à voir avec l'ancien régime. Samir, un commerçant de Latakié, ami de la famille, opine. Certains de ses amis, dit-il, préparent leurs valises, mais il n'en est pas question pour lui.
C'est notre terre ici. Qui voudrait quitter sa terre? Tant qu'ils seront au pouvoir, nous ne serons pas en sécurité, pas du tout. Nous risquons d'être tués à tout moment. Après les massacres, j'ai été à une réunion, j'ai rencontré le comité syrien en charge de l'enquête. Je leur ai raconté l'histoire et ce qui était arrivé à Ali. Ils ont promis que les responsables seraient jugés, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé.
Isman assure que personne n'est venu la voir. Dans son bureau de l'attaquier, l'avocat Majid El-Shamlat reçoit de nombreuses familles de victimes et tente de faire avancer leur dossier. Il reconnaît que les tensions restent vives dans la ville côtière et il a son idée pour amener le calme.
Nous voulons un pays progressif. Nous voulons reconstruire la confiance entre les communautés. Je suis convaincu que pour que ce pays survive, nous devrions reconnaître la singularité de chaque région. Pour moi, je pense que la décentralisation et le fédéralisme sont la seule solution pour sauver la Syrie en tant que pays.
Le fédéralisme, c'est justement ce que tente d'empêcher le président Al-Shara. Il multiplie les appels à l'unité de la Syrie, du nord au sud et d'est en ouest, répète-t-il, dans son combat pour éviter l'éclatement de son pays.
Marie-Pierre Véraud et Martin Troadec, envoyés spéciaux de France Culture en Syrie. Alors que les conflits armés ravagent plusieurs régions du monde, de l'Ukraine au Soudan en passant par le Proche-Orient, le chef des opérations humanitaires de l'ONU en appelle à un sursaut des nations. En conférence de presse ce matin, Tom Fletcher s'est emporté contre la passivité et le cynisme des dirigeants, car l'ONU est en crise, privée d'une partie de la manne américaine, le budget 2026 a été revu à la baisse, avec de premières conséquences dramatiques sur le terrain, Étienne Monin.
Quand Tom Fletcher s'adresse à la presse avec son regard bleu perçant, il parle à la fois des guerres en cours que personne n'arrive ni à arrêter ni à amortir avec l'humanitaire et de la situation de l'ONU qui est aujourd'hui financièrement étranglée. Le financement de l'humanitaire n'est plus à la hauteur des besoins estimés. Cette année seulement 12 milliards de dollars ont été collectés contre 45 initialement budgétisés. L'administration Trump a un énorme passif vis-à-vis de l'ONU et elle a décidé de fermer sa propre agence humanitaire, l'USAID, depuis juillet dernier, d'où la sortie ce matin de Tom Fletcher, ouvertement révolté.
Nous sommes dans une époque où les règles s'affaiblissent, où les fondements de la coexistence sont constamment remis en cause. Une époque où l'instinct de survie a été engourdi par les distractions et rongé par l'apathie, où nous mettons davantage d'énergie et d'argent pour trouver de nouvelles façons de s'entretuer pendant qu'on cherche à démanteler les moyens durement acquis pour nous protéger de nos pires instincts. Une époque où les politiciens se vantent de couper les aides.
Tom Fletcher est un diplomate britannique. Il a conseillé plusieurs premiers ministres. Il était sur le terrain en plein cœur du Darfour il y a 3 semaines. C'est un as de la communication, nommé il y a un peu plus d'un an à son poste, alors que le mandat de son chef, Antonio Guterres, qui est celui qui incarne en général pour l'ONU la mauvaise conscience de l'humanité, termine son mandat dans un an.
Le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir à la Gen Z, ces jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010, qui ont manifesté pour leurs droits récemment à Madagascar, au Maroc et au Népal. Dans le petit pays himalayen, la révolte de la jeunesse les 8 et 9 septembre dernier a contraint le gouvernement népalais à démissionner. À l'origine de la colère, la décision du pouvoir de couper les réseaux sociaux où les jeunes dénonçaient la corruption de la classe dirigeante. Résultat, plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues, la police qui tire à balles réelles sur la foule, 72 morts et plus de 2000 blessés. Bonsoir Cécile Bidot.
Bonsoir.
Vous revenez de Katmandou, la capitale du Népal, où vous avez rencontré la Gen Z népalaise.
Les bougies tentent de résister au vent. Ce soir-là, devant le Parlement, à la façade noircie, une cérémonie rend hommage aux jeunes tués pendant ces 48 heures de violence.
Notre mère patrie, le Népal, ne perdra plus ses enfants.
Madan, 25 ans, a été blessé. Il a encore le bras immobilisé. Il nous montre des vidéos de la manifestation à laquelle il a participé.
C'était une manifestation pacifique. Ce jour-là, nous avions l'intention d'aller au Parlement et de faire sortir les parlementaires du bâtiment. Parce qu'on sait très bien que c'est là que commence la corruption. Et c'est à ce moment-là que j'ai été touché. Autour de moi, 7 ou 8 personnes se sont effondrées. Quand j'ai été touché, j'ai entendu un bruit assourdissant.
Et ensuite, je ne me souviens plus.
Donc là, on vient de passer la grille d'un des hôpitaux publics de Katmandou, le Bir Hospital. On a rendez-vous avec Sanjeev, un jeune homme qui a aussi été blessé par balle alors qu'il manifestait dans une autre ville. Il est resté hospitalisé plus de 40 jours et a dû être amputé du bras droit. Il a déjà repris le travail, il avait créé une agence d'intérim qui envoie de la main-d'œuvre à l'étranger. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec son médecin.
Every day I'm living my same life.
Je vis la même vie qu'avant, parce que Dieu nous a donné deux bras. J'en ai perdu un. Je dois simplement faire le même boulot avec un seul bras. Ces manifestations, c'était contre la corruption. Mais pas seulement. Cela concerne aussi la situation économique. Donc ça permettra de créer un nouveau Népal. J'ai sacrifié mon bras à ma nation. Ce n'est pas que moi que ça concerne, mais tous les citoyens du Népal.
Ce nouveau Népal, il passera par des élections législatives le 5 mars prochain.
C'est la première fois que vous allez voter ?
Oui,
c'est la première fois. On a tellement hâte.
Comme Pranil et Bin, 21 ans, ils sont des centaines à faire la queue chaque jour pour s'inscrire sur les listes électorales.
Donc là, on est sorti du bureau et il brandit son petit reçu en disant « c'est ma carte ».
En votant et en choisissant nos dirigeants, nous pourrons changer les choses.
À partir de maintenant, les leaders, c'est nous, les jeunes. Personne ne va diriger à notre place. Nous sommes les leaders. Le Népal doit changer. C'est la première étape.
This is our first step.
Pour organiser ces élections, une première ministre intérimaire a été désignée. Il s'agit de l'ancienne chef de la Cour suprême du Népal. Et preuve que la Gen Z a pris son avenir en main, elle a été élue sur Discord, une plateforme numérique prisée par les utilisateurs de jeux vidéo.
Voilà pour ce reportage à Katmandou de Cécile Bidot et Virginie Lorda. Reportage à retrouver en version longue sur l'application Radio France, rubrique Interception. Alerte au tsunami au Japon après un séisme de magnitude 7,6 au large de Misawa sur la côte pacifique du pays. Une première vague de 40 cm a déferlé tout à l'heure sur le port de Hachinohe. Il y a plusieurs blessés selon la télévision publique japonaise NHK. Sans autre précision pour l'instant sur ce bilan. C'est l'un des géants du CAC 40 en France et il arrive à la bourse de New York. L'action Total Energy est introduite actuellement à Wall Street. Une entrée directe sur l'une des places financières les plus influentes au monde qui traduit les nouvelles ambitions américaines et mondiales du géant français de l'énergie. Annabelle Grelier, vous nous expliquez les enjeux de cette introduction.
Jusqu'ici, techniquement, le groupe était présent aux États-Unis à travers des certificats appelés ADR, une sorte de miroir de ses actions françaises. Total Energy se retrouve désormais cotée en actions ordinaires, exactement les mêmes que celles échangées à Paris. Une seule action cotée en continu de 9h, heure d'ouverture de la Bourse de Paris, à 22h, heure de clôture de celle de New York. Cela permettra aux mêmes actions d'être échangées en euros en Europe et en dollars aux États-Unis. Une unification qui simplifie les échanges et ouvre davantage la porte aux petits investisseurs américains, bien moins regardants sur les fameux critères ESG et la transition énergétique. Les actionnaires américains, qui représentent déjà près de la moitié des investisseurs institutionnels au capital de Total Energy, accéderont ainsi plus facilement au titre, sans intermédiaire et avec une meilleure liquidité. Le groupe pétrolier peut ainsi améliorer son attractivité et réduire l'écart de valorisation avec ses concurrents américains comme Exxon ou Chevron. Stratégiquement, Total Energy veut continuer à développer ses activités dans le gaz et le GNL. Pour cela, l'accès aux capitaux américains, beaucoup plus vaste, représente un atout majeur, nous explique Charles-Henri Colombier, analyste chez Rexcode.
La Commission européenne, dans le cadre de ses négociations avec l'administration Trump, s'est engagé à acheter 750 milliards de dollars d'hydrocarbures aux États-Unis au cours des trois prochaines années, essentiellement sous la forme de GNL, de gaz naturel liquéfié. Pour une entreprise comme Total, finalement, être l'implantation aux États-Unis et la capacité à jouer un rôle dans ces flux commerciaux d'hydrocarbures entre l'Europe et les États-Unis qui vont monter en puissance, pourrait avoir une valeur stratégique un peu plus importante.
À court terme, la direction de Total Energy affirme que la cotation new-yorkaise n'aura aucun impact pour les actionnaires de Paris, mais dans les faits, Total Energy a bel et bien pris le virage de l'internationalisation pour se mondialiser toujours un peu plus.
Explication signée Annabelle Grelier. Une question ce soir dans l'actualité politique. L'union des droites est-elle encore tabou chez les Républicains ? Nicolas Sarkozy relance le débat en enterrant le Front républicain anti-RN dans son livre à paraître mercredi, Le journal d'un prisonnier. Et le patron de LR, Bruno Retailleau, évoque lui un rapprochement possible avec l'extrême droite, mais dans les urnes. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
L'idée fait son chemin chez les LR, mais elle est très loin de faire l'unanimité.
Oui, c'est en effet Nicolas Sarkozy qui a lancé le débat ce week-end avec la publication de certains passages du livre qui sortira mercredi, Journal d'un prisonnier. Il fait état d'un échange téléphonique avec Marine Le Pen. Celle-ci lui demande s'il s'associera à un front républicain lors des prochaines élections. Et Nicolas Sarkozy répond que non, il ne le fera pas, qu'il prendra même publiquement position sur le sujet et que la reconstruction de la droite passe, selon lui, par un rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Ces propos ont fait réagir le président des Républicains, Bruno Retailleau, invité hier de BFM TV, qui a expliqué ne pas croire à l'union des droites.
Regardez ce qui se passe à Béziers. Un candidat, excellent maire, Robert Ménard, que nous allons soutenir, est attaqué par le Rassemblement National. Où est l'union des droites ? Vous voyez bien que ça n'existe pas. Cette tambouille d'appareil, pour moi, elle est vaine. En revanche, j'assume parfaitement de m'adresser aux électeurs du Rassemblement National pour que l'union des droites se fasse justement par le terrain, dans les urnes.
Bruno Retailleau veut en réalité rééditer ce qu'avait réussi Nicolas Sarkozy en 2007, à savoir siphonner en partie l'électorat du Rassemblement National, mais il refuse une alliance d'appareil avec le RN, et pour cause, cette alliance serait mortifère pour les Républicains. Car le parti politique qu'il préside aujourd'hui considère que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 est un accident de l'histoire, que cette parenthèse va se refermer en 2027, et dans ces conditions que la droite républicaine peut retrouver l'espace politique qu'elle occupait auparavant, avec un parti hégémonique, son parti, les Républicains, susceptible d'agréger autour de lui d'autres forces politiques, notamment les centristes, pour faire le complément. Si les Républicains faisaient alliance avec le Rassemblement National, compte tenu du rapport de force actuel, ça signifierait qu'ils renoncent à être ce parti central à droite et un parti de gouvernement. Ils entérineraient le fait qu'ils sont devenus un parti satellite, un parti de seconde zone. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont franchi le pas jusqu'ici, comme Éric Ciotti, l'ont fait pour des intérêts personnels, sans entraîner l'appareil dans leur sillage.
Stéphane Robert, merci. À gauche, Olivier Faure appelle les députés socialistes à voter pour le budget de la Sécurité sociale demain à l'Assemblée. Le patron du PS y voit un texte de compromis avec Sébastien Lecornu, avec notamment la suspension de la réforme des retraites et la hausse des dépenses d'assurance maladie. Le Premier ministre s'est montré fiable dans toute la discussion, estime Olivier Faure. Le collectif 50-50 lance un nouvel outil pour mesurer la parité dans le cinéma, Cinéstat 50-50. Il a été présenté aujourd'hui au Forum des Images à Paris lors des Assises de l'égalité et de l'inclusion dans le cinéma et l'audiovisuel. Il faut savoir qu'en France, la part des femmes réalisatrices est tombée à moins d'un quart l'an dernier, son plus bas niveau en 5 ans. Le nouvel outil va permettre justement d'analyser en détail les inégalités de genre dans les films français, Fiona Mogadam.
Cinéstat 50-50, accessible en ligne et au grand public, va permettre de chercher des données dans des films produits ou coproduits en France ces 20 dernières années, soit plus de 6000 films, afin de mesurer le niveau de représentation des femmes dans le secteur. Florence Tissot est administratrice du collectif 50-50.
Et donc on peut chercher soit par titre de film et accéder à la parité dans la composition des équipes techniques et artistiques, soit chercher des données plus larges, grâce à un tableau de bord qui permet de jouer avec plusieurs filtres. Par exemple, le budget, le genre cinématographique, le diffuseur, les chefs de poste, si c'est un premier ou deuxième film.
À travers la mise en ligne de cet outil créé avec le collectif Data for Good, l'association 50-50 espère générer plus d'exemplarité dans le milieu, de manière complémentaire avec les études existantes sur le sujet, comme celle du CNC.
Ça permet de croiser des données qu'on ne croisait pas avant. C'est un vrai laboratoire. On peut mesurer la réalité réalité du secteur du cinéma, mais aussi les effets de nos actions, mais avec beaucoup plus d'immédiateté. Et pas seulement avec un regard rétrospectif. Il s'agit à la fois de conscientiser les producteurs, les distributeurs, les exploitants. C'est aussi un outil qui peut servir aux institutions à inciter à corriger les biais. C'est à disposition aussi du grand public, parce que c'est important de sensibiliser aussi le grand public à ces sujets.
Le collectif envisage par la suite de faire évoluer Cinéstat 50-50 pour y inclure des données sur les festivals, l'audiovisuel, ainsi que les affiches de films et bandes-annonces.
Fiona Mogada, merci. Trois syndicats du musée du Louvre appellent à la grève à partir du 15 décembre, un mouvement reconductible. La CFDT, la CGT et Sud veulent des créations de postes et un calendrier pour les travaux les plus urgents dans le musée parisien, le plus fréquenté au monde. Un mot du temps demain qui aura les couleurs de l'automne, gris et pluvieux en général. Le vent soufflera en rafale sur la Bretagne et le Cotentin. Au sud, des éclaircies après les brouillards du matin. Les températures restent anormalement douces pour un mois de décembre. Entre 3 et 12 degrés le matin, mais c'est surtout l'après-midi que le thermomètre s'envole. 12 à 17 sur la moitié nord, 14 à 19 au sud et même plus de 20 degrés près des Pyrénées. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec l'Agdar Olivier Benmalek à la technique Mineta Diawara.